Le deuxième élément, citra-achara. La citra-achara, comme la traduction l'indique, c'est le penchant pour le mal, c'est-à-dire tout ce qui est à l'opposé du côté de la sainteté. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond dans l'homme. Il y a l'influence extérieure du mal, le mal tel qu'il est à l'extérieur, qui vient recouvrir la vérité, ce qu'on appelle le mensonge. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec les médias. On vous transforme, on vous dicte ce que vous devez penser, de la manière dont on veut que vous pensiez. Puis, il y a le mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est quelque chose qui est interne. C'est ce qu'on appelle la citra-achara, c'est-à-dire l'attribut que l'homme possède de se mentir par rapport à soi, de se dicter une conduite qui n'est pas la conduite idéale. C'est quelque chose qui est privé à chaque homme. Donc vous voyez qu'il existe ces deux natures-là, la klipa et la citra-achara. De la même manière, le Hari HaKadosh, le Harizal, explique qu'il existe deux influences divines dans le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé et façonné, comme on le dit dans la Tefila, tous les matins dans la Kedusha, Melo Haaretz Kevodo. HaKadosh Baruch Hu a rempli le monde de sa présence, de sa vitalité. Mais on dit également Baruch Hashem. Baruch Kevod Hashem Mimekomo. HaKadosh Baruch Hu a fait résider son honneur Mimekomo, de son endroit. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une vitalité qui enveloppe le monde et qui l'a fait vivre de l'extérieur. On dit que lorsqu'HaKadosh Baruch Hu a créé le monde, il a d'abord créé ce qu'on appelle un halal. Il a fait un vide pour pouvoir inséminer à l'intérieur de ce vide, à l'image de la maman qui crée un vide dans son utérus pour laisser un rejeton commencer à pousser à l'intérieur et créer la vie. Donc il y a une influence extérieure de l'utérus et il y a une influence par le cordon ombilical qui va pénétrer à l'intérieur de cette poche. De la même manière, Zéliumazé, vous trouverez tout ce qu'il y a dans la sainteté, vous le trouverez dans l'impureté. Vous avez une influence interne du mal et une influence externe du mal. Un autre exemple à vous donner dans les parachutes de Bereshit. Adam Arishon, avant d'avoir fauté, après avoir fauté. Avant avoir fauté, le Yetzer Hara était uniquement et seulement extérieur. C'est ce qu'on appelait Klipa. Lorsqu'il a mangé le fruit de la connaissance du mal et du bien, alors le mal est rentré à l'intérieur de l'homme et a provoqué ce penchant du mal, citra-achara. Où se trouve ce penchant-là dans l'homme? Vehi amitlabeshet bedam ha-adam le-hayot aguf. Elle va s'habiller. Ce n'est pas que c'est le sang de l'homme, mais elle s'habille à l'intérieur de l'homme. Attention à ne pas confondre. Le sang, ce n'est pas le nefesh de l'homme. Le sang, c'est le vecteur du nefesh. Le-hayot aguf, pour faire vivre le gouffre. Ou que dirent-ils? Qui nefesh abassar, car l'âme de la chair, ce qu'on appelle le nefesh, et particulièrement ici la klipa et la citra-achara qui se joignent à eux, badam hi, elle se trouve dans le sang. Ou mimena, et donc d'elle, c'est-à-dire de cette âme-là, baot kolamidot raot, viennent toutes les mauvaises midot, les mauvais comportements que nous analyserons par un cours à part, car on ira faire une échappée pour le prochain cours dans ce que dit le Harizal au sujet de ces midot-là qui se tracent à travers le nefesh qui se trouve dans le sang de l'homme. À bientôt. Nous avions vu dans les paragraphes précédents La définition du tzaddik. Véralo, le tzaddik, vetavlo. Nous avions parlé de la notion de Benoni et nous avions également énuméré les contradictions qui se trouvaient au sujet de Rabba et au sujet de Yov. Rappelez-vous, le problème que nous avions au sujet de Rabba était la définition que Rabba lui-même se donnait de lui. Il s'appelait lui-même Benoni, au point où Abaye lui a demandé, mais si toi tu t'appelles ou tu te nommes Benoni, alors nous qui sommes inférieurs à toi, tous tes Talmidim, mais toutes les générations qui vont suivre, comment vont-elles s'appeler? Aracha? Et comment est-ce possible de dire de Rabba qu'il était Benoni, si on tient comme définition du Benoni que c'est quelqu'un qui est Khatsi Zakai, Khatsi Chaya, c'est-à-dire qu'il a une partie de lui-même qui a fauté, une partie de lui-même qui n'a pas fauté. Difficile à dire sur un personnage tel que Rabba, qui, ne serait-ce qu'un instant, ne perdait pas à étudier la Torah. Au point où même le Satan n'était pas capable de l'attraper, justement parce qu'il ne perdait pas de temps à autre chose que d'étudier la Torah ou se vouer intégralement au service divin. Donc, il va falloir trouver une autre définition de ce qu'on appelle le Benoni, comme je l'ai déjà dit dans la Hagdama de ce Perek. Ce Benoni, c'est cet homme-là qui vient du mot, le Shoresh du mot Benoni, Binyan. Binyan, c'est celui qui se construit. C'est celui qui est en inertie permanente et qu'il, jour après jour, atteint un état pour lequel la veille est imparfait et aujourd'hui est parfait. Puis le lendemain sera encore imparfait. C'est-à-dire que chaque jour, le sommet va être de plus en plus haut. Nous allons reprendre ce chiour à partir du texte qui se trouve juste après le Haga, ce petit paragraphe entre parenthèses. Veha de Amrinan. Be'alma. De'mechetza al-mechetza benoni. Et ce qu'on a l'habitude de dire, qu'un benoni, on donne comme définition une personne qui est moitié-moitié, en d'autres termes, quelqu'un de moyen, ve'rov zechouyot nikret tzadik, ou shem amush'al, et que celui qui est en majorité, quelqu'un de méritant, on va l'appeler tzaddik. Ce sont des appellations qui vont être empruntées dans un champ lexical correspondant l'inyan sra ve'onesh, au sujet du mérite et de la punition. En effet, Akadosh Baruch Hu a laissé dans le monde un équilibre. L'équilibre entre le mal et le bien. L'équilibre entre la punition et le mérite. Ce que d'autres appellent le libre arbitre. Eh bien, la définition que nous avons de Benoni, quelqu'un de moyen, ou quelqu'un de tzaddik, ou de quelqu'un de rachat, est conditionnée, comme nous disions aussi dans la Hagdama, la première Hagdama, par notre état humain, qui est toujours à calculer une majorité. La majorité de la personne, de son temps ou de sa vie, va être louée ou va être désavouée. Donc cette personne va avoir un titre qui va être calculé humainement. Mais quel est le fond de cette personne? A-t-elle en elle-même une définition propre? Hormis le calcul, hormis la majorité ou la minorité. C'est ce que le Admour Hazaken va essayer de mettre en relief ici. Il continue de nous dire que c'est en fonction du mérite de l'homme que nous, le mérite apparent, que nous, humains, va-t-on juger cet individu et le nommer tzaddik, le nommer rachat, le nommer benoni. Mais la définition réelle, objective, en sortant de ce carcan dans lequel nous sommes baignés, qui est le calcul, qui est le poids, mettre tout sur une balance, eh bien, on va donner une véritable définition de ce que c'est un tzaddik, un rachat et un bénoni. Nous dit le Tanya, les fiches, nadouna harubo, car on va trouver une différence entre un tzaddik, un bénoni et un rachat, en fonction de sa majorité d'action, bonne ou mauvaise. Ou mikre tzaddik bedino, il va avoir une dénomination de tzaddik en fonction du jugement que nous allons lui attribuer. Mais arrache zoché bedin, après qu'il ait mérité, qu'il ait remporté son jugement, au point où on va l'appeler tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été considéré comme faisant partie des justes. Aval, l'ignan mitat shem vetoar, au sujet de la véritable définition, de la profondeur du nom qu'on va lui attribuer, et le niveau de ce qu'on va appeler racha, tzadik ou benoni, shel ma'alat ou madrigot halukot tzadikim ou benonim, donc des tzadikim veralo, tzadikim vetovlo, benoni, racha vetovlo, racha veralo, toutes ces madrigot, tous ces étages-là, amrou rabote nosal. Et c'est là où ça va être intéressant, parce qu'enfin l'Admour Hazaken va nous donner quelque chose d'autre que d'humain, un esprit nouveau, un esprit plus élevé, ce que réellement Akadosh Baruch Hu attend de nous en tant que tzaddik, et pas en tant que ce que les autres vont nous juger, nous appeler tzaddik. Écoutez bien et regardez ce que dit l'Admour Hazaken. Amrou rabote nosal, nos chachamim nous enseignent, dans la Gemara Brachot d'Afsam et Chalef, Tzadikim Yetzer Tov Shoftan. Voilà la définition objective. Le tzadik, c'est celui dont le Yetzer Tov va le juger, va le diriger dans sa vie. Chez Neymar, comme il est rapporté dans Michelé, Velibi Halal Bekirbi. Car mon cœur est un vide, Halal est un vide, Bekirbi au sein, en mon sein. Chez Enlo Yetzerara. Car il n'avait pas de Yetzerara, je vais expliquer, qui Argou Betaranit. Car il est arrivé à tuer son Yetzerara par le jeûne, par le Taanit. Essayons de réfléchir. Quelle est cette définition objective que l'Admour Hazaken nous dévoile là au travers le Talmud? Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme est dirigé, ou plus exactement, est jugé par son Yetzer Hatov? Là, ce n'est plus l'extérieur qui juge. La personne va s'auto-juger de manière interne. Et il y a le Yetzer Tov, mais il y a aussi le Yetzer Hara qui veut juger. Non, il va juger sa propre personne, non pas par lui, mais en distinguant en lui-même le Yetzer Tov. Encore faut-il savoir qui parle en son sein. Il nous arrive souvent d'avoir des autocritiques, ou au contraire, des auto-éloges, si on peut se permettre l'expression. Mais faut-il savoir d'où viennent ces jugements? Est-ce qu'ils viennent premièrement de l'extérieur? C'est-à-dire quelqu'un nous a vu, a eu une exclamation, une émotion, a fait paraître un jugement, et alors à ce moment-là, on est plus objectif. Ou bien cela peut venir en effet de soi-même, mais à ce moment-là, est-ce une tarboula, c'est-à-dire un piège du Yetzer Hara qui est là pour nous flatter lorsqu'il ne le faut pas, ou nous critiquer lorsqu'il ne le faut pas. Troisième possibilité, savoir distinguer, déterminer, faire la mise en évidence d'un jugement de notre Yetzer Tov. Vous voyez la difficulté? Le Yetzer Tov a son avis. Il faut le dégager déjà de l'extérieur, puis du Yetzer Hara. Ça s'appelle Tzadik Yetzer Tov Shoftan. Ensuite, le Gemara Zaken nous cite dans la Gemara le pasouk qui est relié. Vélibi Chalal Bekirbi. Et mon cœur, le cœur c'est quoi? Le cœur c'est le lieu dans le corps où circule tout le sang. Les 6 ou 7 litres de sang qui circulent dans notre corps passent à travers cet organe de manière intégrale, à un moment ou à un autre. Le sang, c'est le lieu, comme on l'a vu et on le verra, où se balade le nefesh abéhémit, c'est-à-dire l'âme animale. L'âme animale dont on a besoin de l'existence pour pouvoir vivre, sinon il n'y aurait absolument rien. Mais il n'empêche que le cœur englobe en lui tout ce qui est désir, tout ce qui est envie, que ça soit dans le bon ou que ça soit dans le mauvais. Après, c'est une question de transformation de la personne. Qu'est-ce qu'elle va donner comme désir, qu'est-ce qu'elle va appeler elle comme désir, comme volonté, comme envie, et qu'est-ce qu'elle ne va pas appeler comme envie. Eh bien, nous dit le pasouk, Velibi, mon cœur, halal et vide, bekirbi en mon sein. C'est-à-dire qu'il a réussi à évacuer, à faire cette objectivité complète à l'intérieur de lui. Chose qui est très difficile. Mettez-vous en face de vous-même et réfléchissez. Faites le vide en vous. Le vide complet. Éliminez tout ce qu'il y a déjà à l'vaille que l'on puisse éliminer toutes les influences extérieures. C'est pas une manière de. C'est pas pour critiquer l'extérieur. On a besoin de vivre dans l'extérieur. Mais. Il y a des moments où il faut éteindre l'extérieur, se concentrer particulièrement, et là j'avance un petit peu dans les pratim, au moment de Kriyat Shema à la Mita, c'est-à-dire ce fameux Shema Israël que l'on récite juste avant de dormir, où on se projette sur un jugement objectif justement de toute notre journée qui est passée, au moment où il fait nuit et que l'on s'apprête à remettre son âme à Kadosh Baruch Hu pour une nuit et pour être jugé pour la nuit qui vient de passer. Et là, se concentrer justement sur ce vide. David Ameler estimait, en disant ce pasouk, « She'en lo yetzer hara ». On disait de David Ameler qu'il n'avait pas, il avait réussi à éliminer non seulement les influences extérieures, qui le jugeait ou pas le jugeait, donc on retomberait dans l'idée précédente de ce qu'on en appelle un sadique ou un rachat en fonction de l'extérieur, c'est pas cela qui nous intéresse. Mais David Ameler éliminait même le Yetzer Hara qui se trouvait à l'intérieur. Comment est-il arrivé à distinguer, à déterminer, à mettre en évidence ce Yetzer Hara par rapport à ce Yetzer Tov? Argou Betahanit, car il l'a tellement jeûné dans sa vie qu'il a détruit complètement l'envie, le désir du Yetzer Hara en jeûnant. On verra. Donc, c'est une manière de s'y prendre à l'époque de David Ameler, de jeûner au point d'éliminer en soi le Yetzer Hara. Le détruire définitivement. Mais cela n'est pas suffisant. Car on a vu aussi que David Ameler s'est fait avoir par le Yetzer Hara au sujet de la femme de Bathsheba, où, comme vous connaissez l'histoire, il a voulu justement, comme le dit le Midrash, jouer de son Yetzer Hara, et finalement le Yetzer Hara a surpassé. Et il s'était pris et amouraché de cette femme Bathsheba. Donc, attention, comme le dit le Gemara Zaken, les prakim viennent de commencer. David Ameler ici nous dit qu'il est en train délicatement, doucement, d'éliminer, de faire ce qu'on appelle la phase première du traitement du Yetzer Hara, qui est Itkafia. Le fait de courber, comme on l'a déjà expliqué, de courber, de serrer, de maîtriser son yetzer hara, c'est-à-dire son penchant, ses désirs, ses volontés. Mais il faut une deuxième phase pour être définitivement tranquille, c'est de le transformer. Or, à la phase actuelle, lorsqu'on dit que David HaMelech avait jeûné au point d'écuer son yetzer hara, c'est une bonne chose, mais il faut la suite. La suite, c'est ce qu'on appelle la avoda de it apra. Le it aper, ça veut dire renverser, ça veut dire retourner, ça veut dire transformer le yetzer hara comme un atout, comme un point positif. Nous verrons qu'il y a des manières différentes de s'y prendre dans les pratiques, à part le jeûne, qui est très dur dans notre cas à nous, parce que n'oubliez pas que le jeûne, ce n'est pas des petits jeûnes que l'on parle, c'était des jeûnes de 40 jours, de 80 jours, c'était des choses qui étaient terribles à supporter pour des êtres humains de la constitution d'aujourd'hui. Donc on verra plus tard qu'il y a d'autres moyens, et évidemment le Tania est là pour nous apporter des solutions à nos problèmes et pas à des gens qui ont vécu à l'époque de David HaMelech. Je continue dans le texte. Avakol Michelou Gia les Madrigazo. Tout celui qui n'a pas arrivé justement à ce niveau de David HaMelech, qui a tué son Yetzer Hara par le jeûne, Af Shezichiota Merubim Alavonatav. Bien que ses mérites sont plus importants que ses fautes, et non Bemalat Madrigat Tzadiklal. Il n'est pas considéré ni comme un tzaddik, ça c'est certain, mais ce que ne dit pas le Tania, c'est que même au niveau du Bédoni, puisqu'on a dit que réellement un Bédoni c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. Vélachen amrou raboté nozal. Et là il faut se rendre à l'évidence. Des gens qui ont beaucoup de mitzvot, ou une majorité de mitzvot que d'averot, on peut en croiser tous les jours. C'est ce qu'on a dit dans la partie subjective du jugement, le jugement humain. Mais la notion réelle et véritable que nous donne dans la définition du allemand Hazaken, alors là, c'est très difficile de trouver des gens qui ont réussi à tuer leur yetzer hara d'une manière ou d'une autre. Velachem, je continue dans le texte. Amrou rapoté nous al de Midrash. Les Chachami nous ont dit dans le Midrash, rapporté dans la Masechet Yoma, Vetzadik Yesodolam, que le tzadik est l'élément fondateur du monde. Vous savez tous qu'il existe 36 tzadikim sur lesquels le monde se tient. Parmi eux, il y en a 10 qui sont invisibles, des tzadikim que l'on ne connaît pas. Il y en a certains qu'on connaît, mais il y en a 10, certains, sûrs et certains qu'on ne peut pas les connaître, car le jour où on les connaîtra, ils n'auront plus cette madriga de tzadik sur lequel on parle des 36 tzadikim. Et si ces tzadikim venaient à disparaître, automatiquement, quand je vous rousse, se promet de les remplacer pour que le monde puisse subvenir. Le monde ne peut tenir que sur ces tzadikim-là. C'est la raison du pasouk, vit tzadik yesodola. Et le Midrash de nous dire, Ra'a kadosh baruch hu b'tzadikim, shiem muatim, aman v'shaltam b'chol dor vador. Akadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim, tels que le Admour Hazaken vient de le définir, étaient très peu nombreux. La notion de tzadik est tellement haute que peu de gens peuvent atteindre ce niveau. Alors, il les a dispersés comme une épice, à petite dose, au fil du temps, justement de manière à ce que le monde puisse tenir sur ces fameux 36 tzadikim qui règnent de génération en génération. Mais on reste sur l'aspect quantitatif de ces tzadikim, le nombre de ces tzadikim est très très peu nombreux. Arbiou Ragnan, Alpima Shekatav, Rabbeinu Chaim Vital, Besha Arakedusha, ou Be Ephraim Sharnoun. Le Admor Hazaken va expliquer un peu plus ces définitions des tzadikim et de Benoni, selon ce qui est écrit par Rabbi Chaim Vital, qui a écrit le Sefer Sha'ar Kedusha. Il nous cite et il nous dit « Dechol ish Israël, echad tzadik ve'echad racha » dans tout homme d'Israël, qu'il soit tzadik ou racha, Yesh shtei neshamot. Il y a deux âmes. Preuve à l'appui, le pasouk dans Yeshaya, au chédirtiv, ve neshamot ani asiti. Il a utilisé le pluriel, pas neshama ani asiti, mais neshamot au pluriel, ce qui veut dire que chaque être humain est composé de deux neshamot. Shehen shete nefashot. Ces deux neshamot, ces deux âmes, sont deux nefesh. Ils utilisent une autre détermination, c'est-à-dire deux penchants qui se trouvent à l'intérieur de l'homme, qui vont lui donner des directions différentes. Et on va voir lesquelles. Grand 1, nefesh achat, un nefesh, mitzad aklipa vetsitra achara, du côté de la klipa et de la sitra achara. Il faut expliquer absolument, avant de continuer, ces deux notions, klipa et sitra achara. La klipa, c'est ce qui entoure le fruit, ce qu'on appelle en français l'écorce. L'écorce, elle vient cacher l'intérieur du fruit. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a créé des forces qui viennent obstruer l'homme au contact du divin, au contact de la profondeur de ce qu'il est capable.